Radio Campus Bruxelles 92.1.
Bienvenue à la Conspiration des planches, l'émission critique des arts de la scène de Radio Campus, comme chaque mercredi dès 19h, 19h30 et en rediffusion le jeudi dès 13h30 sur 92.1 FM. Alors, une petite demi-heure pour épingler les spectacles qui ont lieu à Bruxelles. Et j'ai à côté de moi toute l'équipe, Nicolas La Technique. Bonjour, bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Et Sophie à côté de moi, bonjour, bonjour, bonsoir. Et alors, par téléphone, nos deux grâces, hein, Elisabeth et Catherine, bonsoir à vous deux, bonjour.
Bonsoir, bonjour.
J'ai l'impression d'être à Tchernobyl avec tous ces boutons ici.
C'est le maestro qui ce soir nous accompagne avec les deux voix par téléphone et le reste en studio. Alors que de création cette semaine, on ira du côté du Méridien avec Lebenstrom d'Israël Horovitch, mis en scène par Georges Ligny. On ira faire un tour du côté d'une curieuse expérience et complicité au Varia par le CREAM et l'Espace Sangor, Cirque et Handicap. On ira faire un tour du côté des Poissons Rouges de Virginie Straub, une jeune metteuse en scène qui adapte hein, Peter Hanke et Martin Krim à l'Océan Nord. On ira faire un tour à l'arrière-scène avec Katowice Eldorado, Dominique Witowski, mis en scène par Peter Ninan. Et on ira faire un tour du côté de la Monnaie avec le Castellucci qui vient proposer sa première mise en scène d'opéra et il s'attaque pas moins à Wagner et à Parsifal. Mais avant d'aller faire un tour du côté de Wagner, je me retourne directement vers Catherine par téléphone. Catherine, toi tu es partie voir pour nous Lebenstrom, Israël Horovitch au Théâtre du Méridien.
En effet. Alors, Lebensraum, ça veut dire espace vital en allemand, et ça renvoie au terme qui était utilisé par les nazis pour désigner l'espace à conquérir pour assurer la croissance du peuple allemand. Alors évidemment, c'était un concept terrible qui a conduit à l'extermination des Juifs, entre autres. Et alors, ce que fait Israël Horovitch dans Lebensraum, c'est en fait d'utiliser le terme en sens inverse. Donc, il imagine un chancelier allemand qui, pour racheter les péchés de son peuple, va lancer une invitation à 6 millions de Juifs pour venir s'installer en Allemagne avec à la clé la citoyenneté allemande, un travail et un logement. Alors évidemment, on imagine que ça ne va pas se faire sans heurts, mais la force surtout de cette pièce, c'est que ça mélange des dizaines de personnages, donc des Juifs à travers le monde qui vont répondre à cette invitation. Et tous ces personnages sont joués par trois comédiens. Mm-hmm. Donc Stéphane Fenocchi, Didier Kolff et Nargis.
Une jeune fille qu'on connaît moins au théâtre. En tout cas, Fenocchi et Didier Kolff, on les connaît, ils sont habitués de Georges Ligny. Et c'est une jeune fille inconnue au bataillon, on va dire. Allô Catherine, est-ce qu'on a perdu Catherine? Ah ah. Et oui, donc on va essayer de la rejoindre. Je veux dire un petit mot parce que j'ai vu aussi la pièce. Donc c'est Georges Ligny, le metteur en scène.
Deze oproep is onderbroken.
Ah, voilà. On a coupé Catherine. Catherine, est-ce que tu es au bout du fil? Non. Alors, retour à Lebenstrom, donc d'Israël Horovitch au Théâtre du Méridien, la création de Georges Ligny. Alors, Georges Ligny, c'est l'ancien du Zut, hein. C'est le metteur en scène, on va dire, un peu rock'n'roll et coup de poing, qui d'habitude va chercher des textes où la famille est très présente dans ses thèmes et une famille qui se cogne. Ici, donc, avec cette pièce à l'humour juif, hein, Israël Horovitch, qui est décédé il y a une dizaine d'années, je pense. Donc, c'est vraiment, on est direct d'emblée, la première idée de base, c'est cet humour juif. Où un chancelier allemand invite 6 millions de juifs à faire un retour au pays, en terre allemande, à qui on donnera la citoyenneté. Le principe est simple, comme me le disait Catherine, c'est trois comédiens qui interprètent près d'une quarantaine de personnages, ou en tout cas plus d'une, entre 20 et 40, on va dire, vu qu'on ne les compte pas. Et la dynamique est très réussie sur scène. La scène du Méridien est un petit théâtre de chambre. La scène est nue et tout se fait par des valises qu'on vient installer sur un plateau nu dans un silence qui dure. Et donc, il y a une atmosphère de valises et de juifs exterminés, parce que ce sont des valises à l'ancienne qui viennent s'entasser. Et les comédiens vont faire un va-et-vient. L'un prendra, Fenoki prendra par exemple la parole du chancelier qui invite, et on passe d'un personnage à l'autre et d'un débat de petites histoires à l'autre. Chacun est dans son coin. On va voir une famille en Amérique, on va voir deux vieux en Australie qui ont émigré. On va évidemment à Jérusalem voir ceux qui sont retournés au pays, en Israël. Et on va voir comment chacun réagit à cette fameuse invitation. Évidemment, en Israël, c'est la trouille. On se dit qu'il y a sûrement une magouille là derrière. Alors Israël, il y a un petit groupe dissidents révolutionnaires qui vont faire un retour en Allemagne pour tenter de défendre leurs juifs s'ils sont menacés. Et si, évidemment, les Allemands remettent ça, parce que pour eux, de toute façon, ils remettront ça, l'extermination. En Australie, il y a deux vieux qui, eux, sont des survivants de la Shoah, et qui, un des deux, va justement retourner au pays, et on verra qu'il y a une vengeance derrière tout ça, tout un passé. La pièce est très, très émouvante, elle circule aussi avec humour, parce qu'en filigrane de cette pièce, il y a une problématique, c'est-à-dire on est dans le monde des dockers, et un juif d'Amérique va immigrer en Allemagne pour trouver du boulot, et comme c'est la grande mode des juifs qui reviennent et qui font montrer cette invitation est réussie, en tout cas ce projet politique allemand est réussi, on va lui donner de plus en plus des postes de responsabilité, ce qui va mettre en rage les Allemands de terrain, de souche, et il y a une espèce de petite révolution, ou de petite, en tout cas, d'altercation et de heurte, comme disait Catherine.
Alors, sur scène, ça se passe comment? Plutôt bien?
Sur scène, c'est le principe des valises, scène nue, donc avec des valises, et les comédiens qui enfilent juste quelques gestes pour faire le docker. Fenoki, qui est assez costaud, va mettre un bonnet, va prendre un accent de costaud, hein, d'ouvrier, et ça se marie bien en costume, comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'on frôle les accents, et je me suis dit, c'est très drôle quand même, le théâtre est magique, parce qu'ils parlent tous en français, mais ils disent qu'ils parlent en anglais. Par exemple, et ça fonctionne. On a beau dire qu'on vient d'Amérique et que je parle anglais, ça parle français. La mécanique des langues vient. Et aussi, ils réussissent très bien les accents juifs, les accents allemands. Tout ça se marie très bien. Et on passe une petite heure et demie très très émouvante et très drôle aussi, parce qu'il y a quand même cet humour juif qui file à travers cette pièce. C'est un beau projet, en tout cas, du Méridien et de Georges Ligny, qui a réussi cette mise en scène sans grosse scène spectaculaire, comme on a eu l'habitude de voir dans Racine. Il nous avait mis une pipeline justement de skateboard, hein, ce fameux truc. Et ici, c'est quelque chose de très simple, avec simplement des valises, le corps des comédiens et ce changement. Hein. Les comédiens sont quand même faits à changer très vite de personnage, et c'est une belle dynamique que nous avons à Lebenstrom d'Israël Horovitch, à voir au théâtre du Méridien, Nicolas.
Alors, il faut... Ah voilà, c'est jusqu'au 12 février, et c'est donc mise en scène de Georges Ligny, et toutes les informations sur www.theatredumeridien.be, et juste pour qu'on ne s'inquiète pas, on retrouvera Catherine après la pause musicale.
Ok, alors est-ce qu'à l'autre bout, j'ai Elisabeth?
Oui, bien sûr, je vous écoute attentivement.
Bonsoir Elisabeth.
Alors,
Elisabeth Katowice.
Oui, alors Katowice, ben, ça nous transfère à l'arrière-scène, donc cette petite salle près de la chasse à Bruxelles, et dans laquelle en fait on retrouve une troupe de comédiens et de comédiennes qui nous viennent en fait de Liège. Donc ça fait toujours, on doit un peu s'habituer, j'avoue, comme ça c'est vrai que ça nous sort un petit peu de nos circuits. Et de quoi s'agit-il? Eh bien, tout simplement de l'histoire d'un vieux couple d'immigrés polonais, monsieur et madame Tolt, qui ont abouti après mains aléas du destin, on va dire, dans un vieux complexe industriel wallon. Ouf. Et en fait, on les retrouve dans un squat quelque part en Wallonie. Et franchement, ils n'amènent pas large, ils n'ont pas de quoi chauffer. Donc on les voit, première scène comme ça d'entrée de jeu, sur un matelas, en train d'essayer de se tenir chaud. Ah, évidemment, ça ne s'invente pas, avec de la vodka. Alors on est tout de suite, le ton est donné d'emblée évidemment, puisqu'on est dans toute cette misère du monde qu'on retrouve là. Et à côté d'eux, il y a eh bien, le fantôme de leur fille Elisa, qui est là, mais qui n'est pas tout à fait disparue, puisque sa mère n'arrive pas tout à fait à la lâcher, et ce fantôme prend la parole, et qui a la silhouette d'un ange, en fait, elle a même des petites ailes, et on sent un petit peu qu'elle a envie de pouvoir aller se reposer en paix, et on comprend tout au fil de l'histoire bah, que finalement, elle s'est pris une petite balle dans la tête, là, comme ça, parce que tout était un petit peu lourd.
Là, comme ça, une balle dans la tête, on se croirait dans un film.
On se croirait un petit peu dans un film, ou je dirais presque même un peu dans une BD, parce qu'il y a quelque chose d'un peu trash comme ça partout. Et le trash du trash arrive encore quand ce squat est visité par une bande de trois loubards qui sont là pour aller à la castagne, mais pour aussi essayer de ravir un petit peu le gagne-pain de ce pauvre monsieur Toll, qui en fait démonte des vieux ordinateurs pour en trouver l'or, d'où l'Eldorado du titre, évidemment.
Et l'Eldorado est censé être wallon ?
L'Eldorado n'est pas wallon, mais il m'a plutôt l'air d'être dans ces ordinateurs-là qui dépaissent. Je pense que c'est plutôt du coltan, mais enfin, il y a cette image un petit peu de... quand on n'a plus rien, on va un peu rechercher à la décharge, les détritus, etc. Et il y a apparemment vraiment une grosse demande, puisqu'on tente de ravir à ces deux petits vieux... cet or qui se trouverait éventuellement dans les ordinateurs. Alors, on est dans quelque chose qui veut dénoncer qu'est-ce que c'est d'être immigré aujourd'hui, qu'est-ce que c'est d'être au chômage, qu'est-ce que c'est de ne pas avoir d'avenir. On a un peu l'impression de retrouver les moi je m'en souviens dans les années 70, le no future comme ça, un petit peu des punks et tout.
Et on a l'impression d'être en Wallonie.
Et à la fois, on a cette Wallonie qui arrive parce qu'il y a à la fois un accent un petit peu slavisant qui arrive, mais il y a aussi des accents un petit peu liégeois. Enfin bon, on a la Wallonie qui existe aussi un petit peu, mais voilà. Donc on a une option à la fois très réaliste, et puis à côté de ça, on a une esthétique ou une tentation. Tu parlais de film tantôt, moi je parlerais plutôt de BD ou quelque chose comme ça. Mais je pense que c'est là qu'il y a quelque chose qui est un petit peu difficile dans ce spectacle, quelque chose qui fait que même si on accroche, parce que par exemple, il y a dans la distribution Jacqueline Nicolas, qui est une comédienne donc, qui incarne le personnage plus âgé, qui est vraiment terriblement présente, qui est tout à fait incarnée, on sent qu'il y a une vraie générosité là. Elle est assez attachante dans la manière dont elle s'accroche à ce qui lui reste, qui est en fait le fantôme de sa fille, etc. Vraiment, quand on a tout perdu, avoir cette douleur-là en plus. Mais en même temps, l'émotion n'arrive pas tout à fait à nous toucher parce que on est là avec cette violence un peu gratuite comme ça qui arrive, qui déboule. Et donc, c'est ce jeu et ce code qui hésite un petit peu entre quelque chose de réaliste, parce que l'écriture est réaliste, et puis finalement, ce côté un petit peu BD qui arrive, mais...
Les loubards débarquent en veste de cuir.
Les loubards débarquent en veste de cuir, oui, tout, mais tout est assez bien fait. Il y a une scénographie qui est très étudiée, il y a la bande son qui est là, il y a les costumes. On sent qu'il y a vraiment eu du travail derrière tout ça. Mais je ne suis pas arrivée tout à fait à y croire, à croire tout à fait à l'histoire qu'on veut me raconter. Je trouve aussi que dans le texte, c'est vrai, c'est bien de nous rappeler que ben, la misère, elle existe, qu'elle peut être proche et tout ça. Mais j'ai pas vu le regard tout à fait personnel comme ça de l'auteur, donc il y a aussi quelque chose qui m'a manqué un petit peu dedans. Donc voilà, je pense que c'est un très très bel essai, mais qui devrait être un petit peu confirmé. Alors peut-être est-ce qu'au fil des représentations, ça va se délier un petit peu. C'est ce que j'ai senti, ce hiatus comme ça entre deux codes, cette petite hésitation entre un code un peu réaliste, un code un peu BD, l'un va prendre le pas sur l'autre, on va un peu trouver un peu son chemin là-dedans, mais voilà, il me reste quand même un petit goût de trop peu aussi par rapport au texte et aussi à cette réalité qu'on nous donne à voir. Alors bien sûr, il y a de l'humour, il y a du décalage, tout ça est dans les intentions, Mais voilà, je me suis
avec
un petit peu demandé pourquoi on me racontait vraiment cette histoire-là. Et voilà, donc c'est comme si j'étais un petit peu captée par des choses, mais pas réellement émue. Enfin voilà.
Donc soyons francs, Elisabeth, à éviter.
À éviter, mais je dirais pas franchement à éviter, parce que je pense que vu l'esthétique et vu le côté comme ça un peu trash, ça peut probablement plaire à un public peut-être plus jeune. Mais le soir où j'ai été, il y avait un public qui était, je veux dire, un petit peu plus tirant sur la quarantaine, et que donc c'est peut-être ça que
je dirais Katowice Eldorado pour les jeunes qui aiment les blousons de cuir.
Voilà, on
à peut voir dire quelque à l'arrière-scène.
On peut dire ça. Alors, il faut se dépêcher parce que c'est quand même que jusqu'au 5 février, donc pour cette première série. Et enfin, ça reste encore quelques jours, quoi. Hein. Donc, jusqu'au 5 février, c'est à l'arrière-scène que, au demeurant, une petite salle quand même fort sympathique qui soutient la création contemporaine, il faut le souligner.
Voilà, merci Elisabeth, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, bonne soirée.
Petite pause musicale.
La conspiration.
Surtout ne bougez plus, parce que c'est la conspiration des planches qui revient. On vient de s'écouter Anna Calvi, First We Kiss, un extrait de l'album Anna Calvi, et c'est une nouveauté.
Voilà, nouveauté et création aussi cette semaine au théâtre. Catherine, est-ce qu'on t'a en ligne ?
Oui, je suis revenue là, du réseau.
Catherine, on t'entend mal, tu pourrais un peu bouger pour nous et nous parler de complicité.
Mais peut-être que c'est de notre côté aussi un petit peu.
Catherine Ovaria, tu as eu l'occasion d'aller voir dans les coulisses un spectacle qui a lieu, je crois, jusqu'à samedi. Et c'est une drôle d'expérience, ça s'appelle Complicité et c'est avec le CREAM.
Oui, j'ai vu un filage il y a quelques jours de Complicité. Donc le CREAM, c'est une association qui travaille avec les handicapés mentaux. Donc CREAM, ça veut dire créativité et handicap mental. Ils se sont déjà frottés au théâtre, à la danse et aux arts plastiques, mais ils n'avaient jamais travaillé avec le cirque. Et voilà, maintenant c'est fait avec l'espace Catastrophe qu'on connaît bien à Bruxelles, notamment pour ces pistes de lancement qui ont lieu en général en mars, tous les deux ans. Voilà, c'est Catherine Maguise qui s'est chargée de créer un spectacle avec 11 handicapés mentaux et 7 artistes professionnels. Et c'est ça surtout la force du spectacle, c'est que ça mêle les univers pour gommer en fait les frontières entre ce qui est norme et ce qui n'est pas norme.
Et donc toi tu l'as vu en filage, pour préciser, le filage c'est vraiment un jour avant la première pour voir un peu comment le spectacle file. Hein. C'est vers la fin des répétitions, on fait un filage pour voir ce que ça donne.
Voilà. Et donc, il ne faut pas s'attendre à un spectacle très linéaire. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas d'histoire. Ce sont des petits instantanés, comme ça, des moments de magie, des moments circassiens, mais qui racontent des choses. Alors, on a un ping-pong à travers une porte, on a un papillon qui devient tragédienne, un tango sur ballon, ça se passe dans les airs aussi. Il y a Jean-Luc Pirot qui fait le Monsieur Loyal, qu'on avait vu dans les contes Bobo Urbain et qui avait explosé dans ces contes-là, qui est vraiment fabuleux, qui a un style très clownesque au départ et qui fait donc merveille dans ce spectacle. Voilà, ça dure 1h15. Et comme je le dis, il ne faut pas y aller avec des idées préconçues, il faut s'attendre à être surpris, à se laisser porter par un spectacle hors norme, mais magique tout de même.
Ce mélange de complicité donc avec l'handicap mental et le circassien, est-ce que ça donne une grande émotion sur scène? Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on est touché?
Bien, parce que quand on parle de spectacle avec des handicapés mentaux par exemple, on part du principe que c'est louable juste parce qu'on l'a fait, tandis que là Catherine Maguise s'est dit, moi dès le départ je vais les pousser à fond, et donc elle les a fait travailler avec des artistes de renom, des artistes professionnels dans leur domaine, donc par exemple Maria Clara Villalobos en danse, et donc ils ont vraiment posé des vrais défis. Ce qui fait que c'est pas, il y a rien de moralisateur ou de gnangnan, c'est un vrai spectacle, mais qui prend évidemment compte de personnalités un peu surprenantes, des personnalités imprévisibles, qui ont des réactions imprévisibles. Voilà, mais c'est très poétique.
Ok, merci Catherine, on te retrouve la semaine prochaine, toi, pour animer l'émission. Et alors, je précise que Complicité, donc ce spectacle, cette rencontre entre l'handicap mental et les circassiens, spectacle de cirque, est à voir jusque samedi, Nicolas.
Du 3 au 8 février.
Du 3 au 8 février au Théâtre Varia. Du Théâtre Varia, on va pour une autre création à l'Océan Nord, c'est les Poissons Rouges, Sophie.
Les Poissons Rouges que je pourrais considérer comme un véritable ovni, en tout cas en ce qui me concerne. Et voilà, ce spectacle part sur des textes bizarres, dits de façon bizarre, avec une mise en scène qui l'était tout autant. Donc j'ai avant tout envie de parler du mot de l'auteur, de la metteur en scène et de sa note d'intention.
Qui est Virginie Strub.
Alors en fait, elle a un intérêt pour l'anthropologie et elle va partir dans une observation de la nature humaine et de tous ces mécanismes au sein du groupe. Donc les rapports de pouvoir et ce genre de choses. Le lien avec le titre Les Poissons Rouges, c'est, on sait que les poissons rouges ont une mémoire de 2 secondes. Et voilà, il y a un lien avec, en anthropologie, on dit que l'homme a une mémoire d'environ 50 ans. Et donc c'est, on refait les mêmes erreurs. Et voilà,
Est-ce que c'est pas formidable, ça, d'avoir une mémoire que de 2 secondes?
C'est presque de l'Alzheimer.
Alors, encore mieux quand même.
Elisabeth qui rêve de la mémoire courte.
Alors, à côté de ça, elle va travailler sur le texte de 2 auteurs. Donc
Peter Handke et Martin Krim, qui sont connus. Peter Handke, c'est les années 70, on le jouait beaucoup. Martin Krim, on l'a souvent vu au Varia. C'est des auteurs, ça fait 10 ans qu'on n'en entend plus parler. Hein, mais
bah voilà, elle les remet au goût du jour. Et tout en choisissant ces textes qui, selon moi, sont assez bizarres, parce que ça parle de choses très générales, il y a beaucoup de répétitions. Peter Hank, ça revient, donc je vais vous expliquer après, c'est un peu basé sur une chanson, donc on a des couplets-refrains. Peter Hank, ce serait le refrain, et c'est une énumération répétitive de phrases. Son texte s'appelle Prédiction, et ce sont des phrases, par exemple, du genre « Le coq règnera sur le fumier comme un coq règne sur le fumier ».
Voilà, littérature, le texte expérimental des années 70, hein, voilà. Les objets du quotidien sont cités comme des litanies, ça donne une musique. Mais c'est très expérimental ce que tu racontes.
C'est très expérimental, d'autant plus que ce texte est mis en scène avec une forme de musicalité. Donc elle s'est intéressée au son et voilà, la musicalité des mots, du langage. Et donc toute la partie couplet, donc le texte de Martin Krimp, il va être un peu scandé de façon totalement pas naturelle, avec l'insistance sur certaines syllabes, la répétition des mots, avec des tons, vraiment comme une chanson en fait. Et il y a un rythme qui se crée.
Mais on est dans le concert, dans la poésie de ce groupe, ou dans une théâtralité, dans une trame, dans une pièce de théâtre? Est-ce qu'il y a une histoire qui se passe?
Alors, moi, je n'ai pas trouvé qu'il y avait d'histoire, parce que voilà, il y a ces 3 éléments. Donc, l'aspect, les mécanismes dans le groupe, les textes de Peter Hank et Martin Krimp, et la musicalité. Et ces 3 éléments-là apportent beaucoup de sens, mais je n'ai pas trouvé qu'ils entraient vraiment en concordance, en tout cas. Parce que voilà, donc tout ça est mis en scène comment? Avec une voiture au centre de la scène. Une voiture dont on a enlevé le toit, histoire de voir ce qui se passe dedans.
Encore une urtaine de voitures sur la scène.
Encore une voiture, voilà. Il y a 7 comédiens. Alors là aussi, c'est un élément qui donne du sens. Ces comédiens, ils portent la même tenue, ils ont des casques sur les oreilles, ils ont une espèce de hochement de tête abruti et des yeux tout écarquillés. Et ils parlent, voilà, des personnages lambda qui parlent tout en agissant sans grand rapport avec ce qui se dit. Et c'est pas des dialogues, c'est plutôt une espèce de
monologue dans le groupe. Chacun est dans son
trip. Oui, c'est plutôt une idée générale qui va être développée par les différentes personnes du groupe. C'est pas une relation de dialogue. La relation se fait plutôt par le geste entre eux. Voilà, donc on a un peu l'impression d'assister à une conversation dans un groupe dont on ne partage pas les références, et une conversation qu'on aurait pris de court. À côté de ça, toutes ces scènes, c'est vraiment une succession de scènes, elles vont être marquées par une sorte de refrain. Et là, donc, elle passe au texte de Peter Hank. Et il y a toujours un personnage qui se retrouve un peu banni, et sur le côté de la route, puisque voilà, la scène est coupée, disons, en 3 bandes, et il se retrouve sur le côté et il va être pendu parce qu'il a déplu au groupe. Moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Donc,
c'est vraiment un théâtre d'art et d'essai. Catherine, t'es au bout du fil. En une minute, qu'est-ce que t'en penses de cette curiosité?
J'avais la même perplexité que Sophie là, et puis en réfléchissant,
On tente un peu.
Mais je n'ai pas le temps de vous l'expliquer. Mais honnêtement, moi, je la conseille, cette pièce, parce que la mise en scène est très étonnante et c'est très audacieux. Elle est allée au bout de son idée et surtout cette voiture comme ça, où il y a des petits effets comiques avec les essuie-glaces et compagnie. Donc, c'est à réessayer, c'est vrai, c'est assez conceptuel, mais on ne s'ennuie pas. Sauf que c'est peut-être un peu long.
Oui, c'était quand même un peu long.
C'est long.
Okay, donc c'est une expérience en soi.
Vous l'avez vu à la première. Et surtout, Virginie Straub, elle avait donné les Amants de Jelinek, où on sentait déjà une envie de faire un théâtre assez expérimental. Donc, c'est une curiosité quand même à voir.
À voir jusqu'au 12 février à l'Océan Nord.
Au théâtre L'Océan Nord. Alors, les amis, j'ai 2 minutes pour vous parler du fameux Castellucci.
Même plus.
Même plus. Du fameux metteur en scène Castellucci qui a mis l'opéra Parsifal en scène à la Monnaie. Et donc, c'était le gros événement, c'est sa première mise en scène. Alors, En vitesse, Parsifal, c'est tout l'univers de Chevalier du Graal. On est au Moyen-Âge, avec tout le côté chrétien qui est à l'intérieur de ça. Nietzsche avait râlé sur Wagner, je crois qu'ils se sont fait la gueule à partir de ça, parce qu'il lui disait, voilà, il y a un parti pris chrétien. Donc, il y a vraiment une controverse sur cet opéra. Castellucci, qui est le metteur en scène radical du moment, l'italien Romeo Castellucci, a voulu évacuer justement tout ce côté chrétien, toutes ses références, et a voulu mettre ça à hauteur des humains. Sauf que quand on lit l'opéra, et parce que l'opéra est chanté et il est surtitré en français, ben il y a constamment ces références chrétiennes dans l'opéra. Donc ça fait un décalage. En plus, c'est 3 actes. L'opéra est en 3 actes. La première, pour faire vraiment vite, c'est une grande forêt, une installation dans une grande forêt où on voit les gens, on a l'impression qu'ils sont dans un terrain militaire. La deuxième partie, c'est vraiment Castellucci dans un cadre très blanc, avec des corps très attachés, où on voit son univers expérimental. Et la troisième partie est spectaculaire, parce qu'il y a des centaines de figurants qui marchent vers le public. C'est l'humanité en marche. Voilà. Alors, pour le Castellucci qu'on le connaît, on va dire qu'il a fait mieux, ou en tout cas, le parti pris d'évacuer le côté chrétien, il faut vraiment le vouloir. En tant que spectateur, il faut vraiment forcer pour faire abstraction, parce que le texte et le chant nous le rappellent constamment. Moi, ce qui m'a le plus ému dans cet opéra, c'est la direction musicale de Hartmut Hansen, un Allemand. Et c'est vraiment, j'aurais voulu, des fois je le dis, mais c'est méchant, j'aurais voulu parfois juste un instrumental finalement, mais on est à l'opéra, on n'est pas dans un concert. Donc voilà, Parsifal, ceux qui n'ont pas vu Castellucci, à voir juste parce que c'est l'événement, Castellucci monte son premier opéra, mais sinon on repassera et on le verra, on le retrouvera au théâtre, il vient souvent au Single et au Kunsten Festival des Arts. Castellucci, retenez son nom, pour les amateurs justement de théâtre de limite ou d'exploration, est un metteur en scène à suivre. Ainsi se termine la conspiration des planches, un peu chaotique ce soir. Alors on est parti chez Lebensraum, 6 millions de juifs retournent en Allemagne, complicité, handicapé et cirque, poisson rouge expérimental, Castellucci événement et Katowice peut-être avait évité, sauf si vous aimez les blousons de cuir. À la semaine prochaine, Catherine animera l'émission La conspiration des planches. Bonsoir à tout le monde, Nicolas, bonsoir. Sophie, Elisabeth et Catherine. Catherine, soigne-toi bien là où tu es.
Et on se quitte avec un extrait de Parsifal, juste aussi pour vous rappeler que La conspiration des planches sera en podcast sur notre site dès ce jeudi midi, www.radiocampusbruxelles.org. Belle soirée à vous.
Bye bye. La conspiración.